Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Au siècle des Lumières, un philosophe africain défend l'esclavage des nègres. Quel beau siècle que le 18e siècle, un siècle court, un siècle très très court, puisqu'il ne commence que vers 1715, lorsque les Français et l'Europe sont débarrassés du roi Soleil et qu'il se termine finalement assez tôt, dans la décennie 1770-1780, lorsque commence ce que beaucoup d'historiens proposent d'appeler l'ère des révolutions. La révolution américaine, la révolution française et bien sûr, l'indépendance de presque toutes les colonies européennes sur le continent américain. Entre ces deux dates, l'Europe assiste à des bouleversements définitifs et durables, la révolution industrielle, l'avènement du capitalisme et, bien sûr, la question de fond, un débat philosophique, politique important, idéologique également, qui est, bien sûr, la question de l'esclavage des Noirs et la question de l'égalité des peuples. Yopore Kassomé, bonjour, vous êtes au téléphone avec nous depuis la ville de Metz.
Oui, bonjour, Elikem Bokolo.
Bonjour, vous êtes philosophe, vous enseignez à Metz, vous enseignez également à Paris, où vous donnez des cours de la langue égyptienne ancienne. Alors, sur l'esclavage des Noirs et sur l'esclavage en général, c'est quand même assez curieux, et beaucoup de gens se feraient les gorges chaudes pour dire, voilà, il y a un Africain qui défendait l'esclavage au XVIIIe siècle. Mais on sait qu'il y a eu de très grands esprits depuis les temps les plus anciens qui défendaient l'esclavage. Je voudrais que nous entendions quelques passages d'Aristote tirés de la Politique, passage dans lequel il définit l'esclavage comme une chose presque naturelle entre les hommes.
Le même rapport se retrouve entre l'homme et les autres animaux. D'une part, les animaux domestiques sont d'une nature meilleure que les animaux sauvages. D'autre part, le meilleur pour tous est d'être gouverné par l'homme, car ils y trouvent leur sauvegarde. De même, le rapport entre mâle et femelle est par nature un rapport entre plus fort et plus faible, c'est-à-dire entre commandant et commandé. Il en est nécessairement de même chez tous les hommes. Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps l'est de l'âme, ou la bête de l'homme, et sont ainsi faits, ceux dont l'activité consiste à se servir de leur corps et dont c'est le meilleur parti qu'on puisse tirer. Ceux-là sont par nature des esclaves. Et pour eux, être commandé par un maître est une bonne chose. Si ce que nous avons dit plus haut est vrai, est en effet esclave par nature celui qui est destiné à être à un autre. Et c'est pourquoi il est à un autre. Et qui n'a la raison en partage que dans la mesure où il l'aperçoit chez les autres, mais ne la possède pas lui-même. Quant aux autres animaux, ils ne perçoivent même pas la raison, mais sont asservis à leurs impressions. Mais dans l'utilisation, il y a peu de différence. L'aide physique, en vue d'accomplir les tâches nécessaires, on la demande aux deux, esclaves et animaux domestiques.
Yopore Kassomé, vous connaissez évidemment ce passage d'Aristote.
Je connais ce passage.
C'est quand même, notre philosophe d'aujourd'hui a quand même des prédécesseurs prestigieux.
Tout à fait. Et qu'il cite là, il cite celui-ci d'ailleurs dans sa thèse.
Justement, puisqu'il a étudié les langues anciennes, le latin, le grec, l'hébreu, l'araméen, justement, pour faire ses études. Alors, la question qu'il pose, c'est en fait une question qui est quand même débattue lorsque lui prépare sa thèse, parce qu'il y a eu déjà au début du XVIe siècle le grand débat, la controverse de Valladolid, au cours de laquelle on s'est posé la question de savoir est-ce que ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, est-ce que ce sont des hommes, est-ce qu'ils ont une âme, est-ce qu'on doit les considérer comme des humains qui pourraient devenir chrétiens, Indiens et qui auraient évidemment des droits. Et puis par rapport aux Noirs eux-mêmes, on sait que un certain nombre d'hommes d'église, surtout chez les catholiques, avaient déjà fait des plaidoyers sur l'égalité naturelle ou l'égalité religieuse de ces esclaves. Alors, d'où lui est venue cette idée de présenter cette thèse dans les termes dans lesquels il l'a présentée?
Donc, alors, le titre de sa thèse, c'est « Dissertation politico-théologique sur l'esclavage et en ce qu'il n'est pas contraire à la liberté chrétienne ». Donc, d'où lui est venue cette idée? Eh bien, je pense que ça lui est venu de son instruction. Je rappelle que il fait des études de classique et quand il finit son cycle secondaire, ce qu'on pourrait appeler le cycle secondaire, il fait une dissertation qu'on peut appeler un mémoire qui s'appelle en latin De vocatione ethnicorum, c'est-à-dire le titre qu'on peut traduire par à l'appel des païens, c'est-à-dire répondre à l'appel des païens. Donc, sa deuxième dissertation, donc sa thèse, vient compléter ce premier écrit qui lui assigne presque une mission d'aller évangéliser les Africains. Et le fait qu'ils puissent être en même temps en esclavage et christianisé ou évangélisé ne lui pose aucune contradiction. Donc, parce que dans son raisonnement, il dit une chose est l'esprit et une chose est le corps. On peut être libre dans sa tête, même si on est enchaîné. Voilà. Et le fait d'être en esclavage n'est pas en contradiction avec la liberté chrétienne. Et il va comme ça, y compris dans les textes, hein, dans la Bible, essayer de trouver des passages qui vont selon lui, aller dans le sens de cette théorie.
Il a une culture immense, énorme. Il connaît bien l'histoire des Grecs, l'histoire des Romains, l'histoire des Hébreux. Il connaît tout ça, et donc il cite beaucoup de choses. Alors, chapitre pose le problème en général, et ensuite, bon, il a beau jeu de montrer que l'esclavage, au fond, est une pratique banale parmi tous les peuples du monde.
Exactement, que ça existait aussi bien chez les Grecs, chez les Romains, que chez les Hébreux, et qu'on trouve même l'origine, il va nous expliquer ça, dans la Bible, il cite le livre de la Genèse 9:25, que ça se trouve là, dans la malédiction dite de Cham, etc. Et il va reprendre un autre exemple qui se trouve dans le Nouveau Testament, où un esclave nommé Onésime donc s'échappe de son maître Philémon, donc c'est Saint Paul qui raconte ça, et se réfugie à Rome, où Saint Paul l'instruit dans les dogmes du christianisme, avant de le renvoyer à son maître en disant, vous allez voir, une fois qu'il a été instruit dans le christianisme, il va être beaucoup plus efficace au service de son maître qu'il ne l'était avant. Et donc, Amon nous cite cet exemple pour nous dire, voilà, ce que lui va faire dans son pays, une fois qu'il retourne en Afrique, il va faire des chrétiens qui seront aussi bien au service de leur maître, avec une efficacité qu'il n'aurait pas eue s'il n'avait pas bénéficié de l'enseignement du christianisme. Donc, vous voyez bien que c'est tout à fait spécieux et c'est tout à fait dans la ligne de la justification d'une pratique que quelque part, je pense, on trouve un peu gênante et un peu honteuse, puisqu'on ne la fait pas dans son propre pays. On vient de dire que théoriquement, l'esclavage n'existe pas aux Pays-Bas. Mais ce sont les maîtres qui contrôlent à cette époque, toute la côte africaine. Ce sont eux qui maîtrisent le château de Chamois et le fort d'Elvina, qui sont les hauts lieux de la traite à cette époque.
Mais alors, la question quand même, c'est que, il faut discuter ces thèses, parce que un peu avant lui, disons, dans le siècle précédent, il y avait un autre grand grand pasteur de l'Église réformée, Godfridus Cornelis Oudemans, qui expliquait que on peut faire d'un homme un esclave s'il est païen. Mais si d'aventure, une fois devenu esclave, il est baptisé, il expliquait que il faut lui redonner la liberté au maximum au bout de 6 mois. Alors, quelle est la... Est-ce que c'est une position de philosophe ou une position de chrétien ou une position, comment dire, de quelqu'un qui défendait les intérêts, disons, bassement matériels de l'époque?
Ah, vous savez, cette position est défendue aussi bien par des hommes d'église, on va dire, que par des philosophes. C'est ce qu'on va appeler la manumission. C'est-à-dire que quand un esclave est devenu chrétien, on est amené à lui accorder une sorte de grâce et à le mettre en liberté parce que c'est un chrétien et que son statut de baptisé et de chrétien fait qu'il doit être affranchi de l'esclavage. Alors, capitaine n'est pas tout à fait sur la même position parce que s'il épouse cette position, ça veut dire que... Alors, il ne faut pas oublier qu'il est aussi un représentant de la compagnie esclavagiste à elle-même. Donc, s'il défend le fait que le baptême ouvre la voie à la liberté et met fin à l'état d'esclavage, alors il compromet les intérêts de la compagnie qu'il emploie. C'est-à-dire que plus les gens seront évangélisés et christianisés, et moins ils seront esclaves. C'est-à-dire que plus la progression de l'évangile avance dans ces endroits-là, moins il y a d'esclaves et moins les compagnies négrières font des affaires. Donc, il n'est pas sur cette position-là. Il défend au contraire que la terre selon laquelle le fait d'être chrétien n'empêche pas être en même temps esclave. C'est-à-dire que la liberté chrétienne, que c'est le titre de sa thèse, n'est pas en contradiction avec l'esclavage.
Donc l'esclavage porterait, disons, plutôt sur le corps, en quelque sorte, puisque c'est le corps qui fournit l'effort physique, alors que l'âme est libre, l'âme est chrétienne et ne saurait être esclave. C'est en gros ça, la thèse.
Exactement, c'est ce que j'appelle du sophisme, tout simplement.
Oui, oui.
Voilà, enchaîner le corps en pensant que l'esprit est libéré, c'est à grande échelle, enfin, si ça concerne tout un peuple, enfin, c'est un sophisme, tout simplement. On ne peut pas concevoir la liberté autrement que concernant le corps et aussi l'esprit.
Alors, on dit qu'aux Pays-Bas, Capitaine est devenu très fameux après cette thèse. Il circulait partout, il faisait des conférences. On a vu même des représentations le montrant avec un commentaire « Son corps est noir, mais son âme est blanche ». C'est très, très curieux.
Alors, la thèse de Capitaine, il faut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des exemples similaires. La thèse est soutenue en 1742, et la même en mai, donc au mois de mai 1742. Et quelques semaines après, la thèse est traduite du latin en néerlandais. Et avant la fin de l'année, donc avant le mois de décembre, il y a 4 éditions quand même de la thèse, c'est-à-dire une première qui est épuisée, une deuxième, puis une troisième et une quatrième. Lui-même est représenté, on sait qu'il y a 3 portraits connus de lui, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Hamon, dont on a pas de portrait de son vivant, mais de Capitaine. Il y a 3 portraits connus qui circulent à cette époque-là.
C'est un homme très élégant, il est très bien habillé, on sent qu'il est à l'aise, hein, comme on dit.
Et qui pose avec la Bible et certainement d'autres livres, donc c'est aussi un érudit, un intellectuel de haut vol. Et sa courte présence en Europe ne justifie pas, enfin, de mon point de vue, cette célébrité. Si ce n'est qu'il a défendu une thèse ou une théorie qui arrangeait beaucoup de gens à cette époque-là, et c'est pas plutôt qui va faire sa célébrité.
Et justement, est-ce que vous savez si oui ou non Hamon, qui a vécu un peu plus longtemps que lui, est-ce qu'il a lu ses travaux? Est-ce qu'on peut faire des recherches dans cette direction?
ce sera intéressant, mais il n'y a rien de certain à ce sujet. La question que je me posais, c'est de savoir si, au contraire, capitaine a eu vent d'amour parce que c'était son aîné. Il est arrivé en Europe avant lui. Il a soutenu une thèse de droit justement sur un sujet qui n'est
qui est très proche, oui.
En 1729. Donc, il est possible que capitaine ait entendu parler de Hamon, mais je n'en ai pas la certitude. Je sais juste que il y a beaucoup de citations dans son ouvrage. Il cite un philosophe qui s'appelle Theodosius Meiner, qui était un des maîtres de Hamon à Halle, voyez-vous, mais il ne fait pas mention de Hamon. Maintenant, est-ce que Hamon avait connaissance pendant qu'il était en Prusse de l'existence de capitaine? Ce serait des choses, une piste à suivre.
Oui, très certainement, dit, voilà. Oui.
Est-ce que l'un a entendu parler de l'autre? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Il faudrait des recherches plus approfondies pour avoir une certitude à ce sujet.
Bon, on sait que la thèse de Hamon, il a fallu beaucoup de temps pour que finalement on y mette la main. Celle de capitaine a été traduite du latin en anglais et publiée au Ghana grâce à David Denis Anumpobi. Et ce livre est disponible, mais une des choses qui est très étonnante, l'école philosophique ghanéenne qui est très active, finalement semble embarrassée par la figure de ce personnage et n'en parle pas beaucoup.
Oui, je pense que c'est à tort. En fait, moi, j'ai eu cette première impression, mais il y a quelques années, quand je suis tombé sur la thèse de ce personnage, c'était gênant, en effet, de voir qu'un Africain comme nous avait défendu quelque chose d'aussi odieux. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était quand même, il y avait quelque chose à apprendre pour nous, je veux dire pour les générations qui montent, il faut absolument qu'elles découvrent ce travail et qu'elles sachent dans quelles conditions cet homme a été amené à son corps défendant peut-être, je ne sais pas, à faire ce qu'il a fait. Et plus j'avance dans ce travail, plus je me rends compte qu'il est aussi une victime, aussi bien qu'à moi. C'est une victime du système qu'il a cru devoir servir. Donc c'est pour cela que, pour moi, il faudrait que, effectivement, l'école ghanéenne fasse connaître ce travail. Et l'auteur que vous avez cité, David Nii Anumpobi, a fait justement une thèse sur ce travail de Hamon. Je pense que c'est un bon début.
Ouais, philosophe, on n'en est pas moins homme. Je voudrais que nous terminions cette émission avec une très belle lettre, très intéressante, assez curieuse, qui date du 15 février 1743, que capitaine envoie au directeur de la compagnie hollandaise et dans laquelle il explique son embarras pour trouver une femme. Il veut une femme noire, une femme feintie, et il a énormément de problèmes pour réaliser ce vœu.
Très noble et honorable messieurs, pour qu'avance de manière plus heureuse et que réussisse plus rapidement ce grand objectif qui est le mien, la conversion à la religion chrétienne réformée de ces Africains noirs qui sont mes semblables par la chair, je trouve maintenant, après y avoir longuement réfléchi, que ce ne serait pas une mauvaise chose si je prenais pour épouse, par un mariage légitime, une jeune négresse qui ne serait pas seulement née ici à Elmina, mais qui, pour ce qui est de l'éducation, se serait aussi montrée plus disponible et plus capable que la plupart. J'ai cherché, et j'ai justement trouvé, une telle jeune négresse, et j'ai révélé mon intention à son honneur, le directeur général de ses côtes, et au responsable de la compagnie, cherchant ainsi leur conseil pour savoir s'il est permis d'épouser d'abord cette négresse et ensuite de l'éduquer. Cependant, lorsque son honneur a consulté le grand livre de nos statuts, il a découvert que mon objectif n'était pas autorisé, sauf si la négresse est d'abord éduquée et baptisée.
Voilà, Yuporeka Sommet, nous terminons sur cette lettre très curieuse qui montreront que, en effet, les intellectuels de cette époque-là avaient aussi des problèmes que beaucoup d'Africains aujourd'hui, dans l'émigration notamment, ou ceux qui rentrent en Afrique, ont pour choisir donc une compagne à leur goût. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec